1er novembre, je pense que c'est la journée des morts. Je suis pas sûre, me semble.
Mais oui, c'est la journée des morts. Hier, c'était la journée des monstres. J'espère que tu t'es amusé avec tes petits monstres, tes petites monstres à l'Halloween.
Ben
ça,
oui.
Ça s'est bien passé.
Très oui. Bien passé.
Oui, toi, tu me disais que finalement, là, tes bonbons, tes enfants passent l'Halloween, mais ils ne mangent pas les bonbons que les enfants ramassent. Est-ce que c'est vrai, ça?
Ben oui, ça fait une couple d'années qu'on fait ça. C'est parce que, bon, à un moment donné, c'est rendu... j'avais pris cette décision-là le jour où mes enfants ils étaient en train de faire la danse du bacon parce qu'ils avaient mangé trop de sucre. J'ai dit, OK, là, ça n'a plus de sens, là. Tu sais, ils reçoivent tellement de bonbons. Puis, tu sais, ils en reçoivent même à l'école. Ils en reçoivent partout, finalement, tu sais, toute la semaine. Fait que là, je me suis dit, il faut qu'on mette un stop à ça. Puis là, ce qu'on fait, dans le fond, c'est... Les enfants, ils nous donnent leur sac de bonbons. Donc, ils passent l'Halloween comme tous les autres enfants. Ils nous donnent leur sac de bonbons. Puis nous, on leur donne une surprise. Donc, un autre sac. Que dedans, il y a des bonbons qui sont un peu, je te dirais, moins pires, là. Donc, des bonbons qui sont plus, disons, on va dire, naturels. Et puis, je leur ai acheté une Barbie de l'Halloween. Bon.
Ah, OK. Alors, tu échanges ça contre quelque chose un petit peu plus... long terme, mais moins... je trouve ça une super bonne idée. Vois-tu, je vais essayer de voir si ça passerait aujourd'hui, là. Je pense qu'ils ont déjà... certaines qui ont peut-être déjà mangé la moitié, là. J'essaie de faire du contrôle, là, mais c'est vraiment pas évident. Mon avantage, par contre, c'est qu'ils n'ont pas eu d'école ni hier, ils n'en ont pas aujourd'hui, puis en ce moment, ils sont en train de s'amuser de leur bord, là. Mais... ce qui est le fun, c'est que, justement, ils n'ont pas été gavés à l'extérieur de cette fameuse soirée-là d'Halloween.
Bien, c'est tout le temps... Tu sais, je me dis, moi, là, j'aimerais pas ça être un enseignant la journée après l'Halloween, parce que les enfants sont tellement tous sur un trip de sucre.
Oui, ils sont hyper, là. Oh, mon Dieu. Oui, j'imagine le scénario, là, c'est pour ça. Bien, ils sont calmes. C'est acceptable en ce moment. On va peut-être aller prendre une marche ou aller prendre l'air tout à l'heure, là, mais... J'ai pas le droit à des bacon, des danses de bacon pour l'instant. Je suis chanceuse. Bon, puis autrement, ben quoi de neuf? L'actualité, il y a des choses de nouveau, mais on revient toujours avec... on dirait que c'est comme je disais, là, les dernières semaines, ça stagne. On est toujours avec les mêmes conversations. Mais j'ai été capable de déchiffrer ou de trouver des petites nouvelles d'actualité. Il y en a une qui m'a accrochée. Ça concerne les garderies, le système de garderie au Québec. Et j'ai trouvé cocasse un peu parce que, à quelque part, c'était dans la presse, je pense que c'était lundi ou mardi, et ça concerne essentiellement le fait qu'il y a des garderies illégales qui fonctionnent au Québec.
Des garderies illégales, c'est quoi ça? C'est-tu des garderies où on accepte 50 enfants pour une éducatrice puis on les fout dans le garde-robe?
Ça me fait pas. Moi, quand je disais ça au départ, là, j'imaginais le pire. J'imaginais vraiment là comme dans un sous-sol, là, tout est noir et là, on prend tous les enfants, les parents, ils garochent leurs enfants, ils se dépêchent à partir. Puis c'est comme une espèce de prison. Mais finalement, les garderies illégales, ce que j'ai cru comprendre dans le texte, c'est que c'est des garderies qui ont des standards tout à fait appropriés, mais qui pratiquent avec un sens éthique et ils acceptent des enfants selon des exigences normales. Mais le problème, c'est la différence, c'est qu'elles ne reçoivent aucune subvention du gouvernement parce qu'elles sont privées. Et de deux, elles n'ont pas été techniquement approuvées. Mmh. Ils n'ont pas eu le sceau du gouvernement du Québec. Mmh. Alors, ces garderies, puis moi, je regardais les chiffres, ça m'a choqué un peu parce que on parle qu'en 2009-2010, on comptait, disons, le ministère de la Famille a été capable de dénombrer 120 établissements illégaux. Et cette année, on parle de l'année 2011-2012, pas cette année, mais l'année passée, il y avait près de 232 garderies illégales, entre parenthèses. Alors, le phénomène ne fait que progresser. Mmh. Et l'une des choses que ça me faisait rire, parce que dans l'article, tu vois, c'est assez biaisé, le journaliste mentionne que le comble de l'histoire, c'est que ces garderies-là donnent des reçus aux familles. Alors, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles chargent entre 30 et 35 $ par jour par enfant. Et par la suite, elles donnent une facture. Et les parents, à la fin de l'année, s'en servent comme retour d'impôt. Alors, c'est le gouvernement indirectement qui ramène ça. Et ce qui est le plus cocasse ou le plus surprenant dans tout ça, c'est que cette situation-là existe depuis un bon bout de temps. Et c'est très, 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 très difficile pour le gouvernement de contrôler ce fléau. Alors,
En fait, c'est parce qu'ils ont causé ce problème-là. Là. C'est le gouvernement qui a causé. Parce que ça, quand j'étais jeune, c'était des garderies complètement légales. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'illégalité là-dedans. Là. C'est juste du fait qu'on a décidé que les établissements préscolaires devaient tous être approuvés par le gouvernement. Mais moi, je vois absolument rien de pas correct avec ça. S'il y a des parents qui décident d'envoyer les enfants dans des endroits comme ceux-là parce que, bon, pour plusieurs raisons, mais peut-être parce que ils ont pas de place ailleurs.
Ça, c'est la raison première. Et moi, ce qui me fait rire dans justement dans cet article-là ou dans cette nouvelle-là, c'est qu'on laisse encore donner l'impression que le parent n'a pas de jugement, que l'entité qui a le plus de jugement, c'est le ministère ou le gouvernement.
Ouais.
Le gouvernement, c'est toujours mieux que les autres. Nous, on sait avoir les critères pour la meilleure garderie. On sait établir.
Tu te rappelles ce que je te parlais, je pense que c'était une couple de semaines. Tu sais, là, le gouvernement, les CPE du gouvernement, eux, ils ont vraiment à cœur l'éducation des enfants. Et les garderies privées, c'est plus le profit qui les intéresse. Tu t'en rappelles?
Oui, c'est sûr. Mais quelle entreprise? Et même, regarde, un instant, on parle que les CPE n'ont pas un but de faire de l'argent. Peut-être que la base, la philosophie, c'est de l'éducation. Mais, pardon, les éducatrices, et là, j'ai appliqué le bon terme, youhou, mais les éducatrices, s'il n'y a pas un côté pécunier, monétaire, il n'y en aurait pas de ces dames-là qui feraient ça. Moi, je suis désolée, mais aux dernières nouvelles, je pense pas que ces dames sont payées au salaire minimum. Je pense même que depuis l'entrée, depuis qu'elles sont, la plupart sont syndiquées, on parle d'un salaire qui est entre 15 et 20 $ de l'heure. Alors, s'il n'y a pas le côté monétaire qui rentre en ligne de compte avec même le système public, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Je pense que
même ils sont payés plus cher que ça là. Tu parles
ça se peut très bien.
Oui, c'est ça. Avec les syndicats, ça avait augmenté de beaucoup. Je me rappelle dans le temps que les CPA, puis on revient tout le temps sur les CPA, mais c'est parce que c'est vraiment un problème. Dans le temps que c'était venu au monde, les places en garderie coûtaient environ, je dirais, et là on comprend la cotisation du parent, c'était environ 32 $ par jour. Et maintenant, à certains endroits, c'est jusqu'à 70 $ par jour que ça peut coûter pour une seule place.
Moi, ce que je disais, c'est en moyenne à travers le Québec, si on ajoute le 7 $, c'est que le service par enfant par jour est en moyenne 53 $. Et vois-tu, ces garderies techniquement qui sont appelées illégales, eux vont charger 30 à 35 $, qui est beaucoup. Moi, quand on parle de 30 à 35 $, c'est équivalent à peu près à 150 $ la semaine. C'est à peu près ce qu'on retrouve ici aux États-Unis.
Oui,
et vois-tu, ça me fait rire parce que ça, ce processus-là, c'est ce qu'on vit. Moi, c'est ce que j'ai toujours connu. Même, j'étais capable, quand j'envoyais mes enfants dans une chez une nanny à sa résidence, j'étais capable d'avoir une facture et on pouvait avoir un retour d'impôt. Dans n'importe quelle situation, quand tu envoies ton enfant dans une institution, une garderie ou même à l'école privée, le reçu que tu envoies, ou les after school, comment on dit ça, c'est l'école.
Après l'école, mais c'est parce que les programmes, je sais même pas en français, les programmes après l'école, là.
C'est comme les garderies après école. Nous, ici, on paye d'avance. On reçoit un reçu à chaque semaine ou à chaque mois, peu importe. Et après ça, tu peux ramener ça à... Soit tu as des plans avec ton entreprise, parce que mon mari, c'est ça qu'il a aussi également, c'est qu'il a été capable d'avoir un plan quelconque où est-ce qu'il peut mettre de l'argent de côté avant impôt.
Exact, comme
et
nous.
Et quand il arrive à chaque fin de mois ou à chaque deux mois, il amène ses factures, il reçoit un pourcentage qui équivaut à le crédit qu'il recevrait techniquement, et il est capable de renflouer le compte. Puis pendant ce temps-là, ben les compagnies n'ont pas à se badrer. Ils ont des exigences. Je suis même pas en train de dire qu'ici, c'est l'anarchie, puis on peut... Moi, je peux ouvrir une garderie avec, comme on disait tout à l'heure, dans un sous-sol avec 50 enfants, puis les traiter comme des chiens, là. Ça n'existe pas ici, là. Il y a des normes à suivre, mais il y a quand même une flexibilité qui n'existe pas à ce que je peux voir au Québec, parce qu'il y a un marché noir qui existe en ce moment.
Tu sais, je disais qu'il y avait, plusieurs programmes préscolaires qui étaient pris en charge par des... ça pouvait être des églises, mais n'importe quelle organisation de charité, dans le fond. Et ce que ça donnait, c'était des très bons... Moi, je me rappelle, ma fille est allée pour, je pense, une année dans un de ces programmes-là, puis c'était vraiment pas cher. Donc, c'est 15 $, et même chose pour ce 15 $-là. Je peux le déduire de mes impôts, mais c'est sûr que c'était dans une église. C'était...
Oui, mais moi, j'ai vécu ça aussi également. C'est... mes enfants allaient à... une église méthodiste, en fait. Quand j'étais, quand j'ai accouché suite à l'accouchement de mes deux premiers, je voulais avoir un petit congé, parce que nous, on n'a pas le droit à des congés de un an. Alors, qu'est-ce qui arrivait? C'est que j'allais voir ces dames-là. Je travaillais à temps partiel, puis c'était en arrière d'une église, et on avait comme une petite crèche. Tu laissais des demi-journées, des journées, et justement, selon ton revenu, ils te chargeaient, et encore une fois, tu recevais un reçu à chaque fin de semaine, puis tu pouvais déduire ça ou ramener ça à la fin de l'année, ou peu importe. Mais le système ici, c'est ça que j'ai remarqué, c'est qu'ici, il y a beaucoup de choix, beaucoup d'options, chose qui n'est quasiment pas existante. Par exemple, j'ai une copine, elle travaille la nuit. Puis, elle a besoin d'avoir un service qui fait en sorte qu'une dame qui vient passer la nuit, et elle avait le choix entre un endroit où est-ce qu'elle peut déposer son enfant pour la nuit, puis elle va le rechercher le lendemain matin, ou il y a quelqu'un qui vient à la maison. Il y a une diversité de services qui est offert. Puis
à des prix vraiment différents. Oui. Puis tu sais, la qualité, tu sais, les gens vont dire, OK, mais la qualité doit être moindre. Mais je m'excuse, mais tu vas retrouver le même genre de qualité. Puis les CPE, je les connais, là, je les ai côtoyés. Tu vas recevoir même une qualité supérieure, mais tu as le choix. Vraiment, donc tu peux dire, bon, écoute, je vais prendre cette année, moi j'ai pris le programme. Ma fille va dans une école Montessori, mais bon. J'ai pris le programme court, donc c'est de 8 à 3. Mais moi, ça fonctionne pour moi. Oui. C'est dans mes heures de travail. De toute façon, mes enfants arrivent à 3 heures de toute façon. Donc, pour moi, ça coûte moins cher. Mais pourquoi je paierais pour des heures que j'utilise pas?
Ben tout à fait. Mais tu revenais au fait que la qualité, je pense qu'il y a une qualité qui est quand même très bonne dans les CPE, puis ça, je veux pas cracher là-dessus. Moi, j'entends des gens qui sont très, très, très satisfaits, mais généralement, les gens qui sont très satisfaits de ce genre de service, c'est qu'ils sont capables de vivre dans le moule qu'on leur a imposé. C'est, ça commence de telle heure et ça ferme à telle heure, les congés sont tel moment. Et c'est très structuré et très, il n'y a pas beaucoup de flexibilité.
Écoute, une femme qui... Écoute, faut que je te coupe. Sais-tu pourquoi? Je vais prendre un petit 5 minutes pour te conter quelque chose parce que ça n'a pas de sens. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on est ici aussi. C'est que tous les programmes qui étaient en fait faits pour nous, parce que j'ai un enfant qui est handicapé, ils ont échoué. Et on s'est retrouvés à faire du capitalisme, donc d'aller dans un endroit où est-ce qu'on avait le choix. Mais ma fille, elle était dans une garderie, et je nommerai pas la garderie puis tout ça, mais il y a quand même eu des plaintes. Les plaintes sont retrouvables. Il y a eu vraiment là une enquête qui a été faite là-dessus.
Là, tu parles d'une CPE, vraiment. Là, tu parles pas d'une garderie.
D'un CPE. Okay. Ben c'est ça, une garderie, CPE. Okay. Bon. Donc, ma fille, quand elle est née, bon, c'est ça, elle est née, elle avait, on a découvert qu'elle avait un syndrome et tout ça, elle était handicapée, elle avait des problèmes de communication, donc les psychologues et tout ça nous ont suggéré de l'envoyer dans un CPE parce que c'était pour l'aider pour la socialisation. Bon, donc c'est ce qu'on a fait et on avait, dans ce temps-là, l'accès à un CPE rapidement parce que mon conjoint était dans un établissement où il y avait une garderie. Donc, on avait en priorité des places disponibles. Mm-hmm. On a eu une place très rapidement et parce que ma fille, elle était considérée comme étant handicapée, elle avait le droit à une subvention du gouvernement. Donc, l'établissement, le CPE, avait droit à une subvention du gouvernement pour s'occuper d'elle. Donc, il recevait beaucoup plus.
Alors, mais c'est pas toi qui recevais, c'est l'établissement qui recevait une subvention. Est-ce que c'est ça?
Exactement. C'est pas moi, c'était l'établissement. Et là, au départ, c'est sûr que ma fille ne ça fonctionnait pas du tout. Elle fonctionnait pas en groupe. Elle avait des problèmes de communication. Elle parlait pas. Bon, tout ça. Elle avait des drôles de comportements. Mais on me disait, oui, mais faut que tu continues de l'envoyer parce que c'est l'endroit idéal pour elle. Tu sais, le gouvernement va s'en occuper. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bon, par la suite, il fallait qu'ils utilisent, parce que la subvention, elle est là pour quelque chose, là, ils donnent pas ça comme ça, c'est pas comme un bonbon à l'Halloween, là. C'est fait pour que tu engages soit quelqu'un pour s'occuper de ton enfant, puis tout ça. Et on avait eu une petite rencontre, et ils ont engagé quelqu'un pour s'occuper de ma fille. Et donc, la personne venait à tous les jours, vraiment, pour s'occuper de ma fille en un à un avec la subvention. Dans ce temps-là, moi, je trouvais que c'était super. Bon. Tu sais, quand tu le sais pas, ce qui se passe, ben, tu sais, je trouvais ça génial. Sauf que, à un moment donné, on a eu un appel de cette personne-là qui avait été engagée pour ma fille. La personne me dit, je ne suis plus capable de tenir le secret, je dois vous en parler. La personne, elle avait été engagée, non pas pour s'occuper de ma fille, mais elle avait été engagée comme personnel de soutien pour tout ce qu'il y avait alentour de ma fille.
Okay.
Ma fille, écoute, le CPE n'a jamais dit que c'est pas vrai ce que je vais dire là. Ma fille passait la majorité de sa journée dans un garde-robe.
Non!
Et c'est pas, je le sais que les gens m'ont dit, mais moi, ça se peut pas. C'est 100% vrai. Le CPE n'a même pas dit que c'est pas
vrai.
Ce qu'ils ont dit, c'est que ils n'avaient pas le choix de la retirer parce qu'elle dérangeait tout le monde. Et comme ils recevaient une subvention, donc ils devaient utiliser l'argent qu'ils recevaient pour s'occuper de ma fille. Bon, la personne de soutien, ben il l'utilisait à faire autre chose parce que en fait ma fille était en retrait dans un garde-robe qui était en fait un garde-robe d'audiovisuel, c'est là qu'ils mettaient les télévisions.
Mais voyons donc. Bon.
Ouais. Et pour endormir ma fille, parce que là, l'après-midi, tu sais, dans un CPE, t'as pas le droit de pas faire la sieste. Tous les enfants sont pareils, tout ça. Et ma fille ne voulait pas dormir, donc pour qu'elle dorme. Et c'est encore le vrai. il l'enroulait comme une momie là dans une couverture. Il lui mettait un bout de couverture dans le visage pour pas qu'elle voie partout. Et il la tenait, ok, jusqu'à est-ce qu'elle s'endorme parce qu'elle était épuisée.
Mais voyons donc, fait qu'elle hurlait de fatigue. Elle hurlait jusqu'à temps puis elle tombait de fatigue pour.
Exactement. Donc, quand on me dit que les CPE, c'est bien, j'ai un petit peu de difficulté. Et oui, on est allé voir un avocat. Et oui, on a fait des plaintes. Les plaintes sont retrouvables, ils sont là. Le CPE n'a jamais dit que c'était pas vrai. Ils ont même avoué que c'était vrai. Mais pour eux, c'était justifié.
Mais Julie, ça revient juste au principe de dire c'est one fit all, one solution fit all.
Oui.
Ils ont un modèle, ils ont une façon d'établir les choses. Et si moindrement... et c'est pas par mauvaise foi du personnel. Je pense pas que les gens étaient méchants puis voulaient du mal à ton enfant, mais je pense qu'ils étaient tellement pris dans cette espèce de moule où est-ce que tu dois suivre les règles et les normes. Si tu sors un peu de ça, ben ça marche pas. Puis
ouais, mais c'est parce que au départ, ma fille n'avait pas d'affaires dans un CPE.
Oui, non, j'avoue. Puis toi, tu l'as réalisé. Il y a des parents qui, on parle d'un enfant qui avait c'était assez sévère. Il y a des enfants qui sont dans des situations où est-ce que c'est borderline, où est-ce que l'enfant est sociable, mais il y a quand même des troubles quelconques. Et les parents ne sont peut-être pas alertés par le comportement, quoi que ce soit, puis ils vivent des situations pareilles. C'est de l'abus, mais c'est de l'abus qui est camouflé parce que, justement, nous, ce qui est établi doit rester comme elle est. Et moi, c'est pour ça que je reviens à cette fameuse nouvelle là qu'on a commencé à discuter. La solution, je sais pas si tu as idée, c'est quoi les fameuses solutions du ministère de la Famille, parce qu'ils se sont fait réprimander. Ils se sont fait réprimander par plusieurs organismes. Là, j'essaie de trouver les noms. Il y a, entre autres, le protecteur du citoyen et le vérificateur général du Québec. Ces deux entités-là ont traité le ministère de la Famille d'avoir des comportements laxistes face à la situation parce que, finalement, ils ont comme laissé aller les choses. Et le ministère de la Santé, pour remédier à ça, est arrivé avec quatre fantastiques solutions. Et je ne sais pas si tu as une petite idée de quoi ces solutions font état, là. Mais la première, bien entendu, c'est de créer encore plus de places de garderie à 7 $. Alors, tant que, tu veux dire, c'est comme si le bateau coule, mais on continue toujours à en mettre un petit peu plus pour essayer de garder le système à flot. Alors, la première solution, ben on parle de ça, créer plus de place au public, mieux détecter les garderies qui sont illégales. Fait que pour faire ça, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? C'est de tripler le nombre d'inspecteurs. En ce moment, il y en a 5.
Oui, la police des garderies.
C'est ça.
Maintenant.
Il y a 52 inspecteurs. Ils veulent amener ça à près de 150, 160 inspecteurs. Et c'est bien entendu sanctionner les contrevenants et de s'assurer par la suite de faire une campagne de sensibilisation. Alors ça, c'est les quatre moyens.
Mais ils vont faire quoi? Ce qu'ils vont faire, ils vont mettre plein d'enfants dans la rue avec des parents qui sauront pas quoi faire avec leurs enfants, c'est ça?
Ben, en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'ils veulent alourdir encore plus le système. C'est la seule chose que je vois, c'est qu'ils veulent alourdir encore plus le système sans aller voir elle est où la source du problème.
Oui, mais c'est parce que c'est exact. Ils disent la sensibilisation de quoi? La sensibilisation de leur dire que il n'y en a pas de place? Parce que c'est ça, la raison numéro un, c'est qu'il n'y en a pas de place. Oui. Donc, la sensibilisation de quoi? De dire, ben oui, mais il faut que vous utilisiez les CPE. Oui, mais comment je fais pour utiliser des CPE si j'ai pas de place?
Ben, c'est ça, mais c'est pour ça qu'ils se disent, on va essayer de pallier en créant plus de place. On va essayer de créer d'ici 2016, on va essayer de créer 250 000 places nouvelles en garderie. Déjà, le système de garderie CPE est hyper endetté, hyper lourd. On parle qu'on va ouvrir encore 250 000. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller chercher l'argent pour financer ces garderies-là. Puis, entre-temps, c'est justement essayer de faire passer le message aux parents, aux mauvais parents qui osent utiliser ces garderies illégales. En leur disant, regardez, vous pouvez mettre à risque la santé ou la vie de votre enfant d'envoyer dans des établissements. Et comme je te dis, trois quarts ou 90% des établissements dits illégaux, je suis convaincue qu'au point de vue conformité, au point de vue sécurité, elles sont aussi bien que n'importe quel CPE. Mais là, on va changer de tir, on va aller dans une autre direction. On parle encore d'éducation des enfants. Mais là, on va aller du côté américain. Parce que là, souvent, les gens ils disent « Ah, vous parlez du Québec, puis c'est tout le temps négatif, puis vous mettez l'emphase des États-Unis, c'est parfait. » Et non, ce n'est pas parfait. Je l'admets. Je pense que toi aussi, tu es capable de le reconnaître.
Non, c'est ça. J'ai jamais dit que c'était parfait, là.
On a des problèmes majeurs. Puis, la nouvelle, elle est simple, mais en même temps, elle fait voir à quel point le système fédéral devient de plus en plus invasif dans la vie des gens. Cette nouvelle-là, j'ai trouvé la semaine passée ou au début de la semaine, ça concerne les programmes de garderie, de prématernelle. Aux États-Unis, il y a Head Start. C'est un programme fédéral qui offre de l'argent aux écoles pour ouvrir des petits programmes de prématernelle de 3 ans et de 4 ans. La prématernelle aux États-Unis n'est pas obligatoire, mais souvent, on encourage les enfants dans les secteurs défavorisés de commencer dès l'âge de 3 ans, envoyer leurs enfants dans des écoles qui ont des petites classes associées, en lien avec... Ils sont dans l'établissement, une école primaire, mais elles sont séparées et le financement vient surtout du fédéral.
Ben en fait, ici, pour donner un exemple, c'est à partir de 4 ans, donc c'est une prématernelle qui est gratuite dans un établissement public, exact. Mais c'est fait pour les gens qui sont défavorisés ou des gens qui parlent une autre langue à la maison, donc en principe, on pourrait être éligible.
Ben en fait, nous autres, c'est que, vois-tu, toi, c'est l'État du Texas, l'État d'ici, c'est les enfants de pre-K 3 sont éligibles seulement pour ces critères spécifiques-là, et le pre-K 4, il y a, étant donné que il y a beaucoup de places et les gens il y a une ouverture, il y a des places qui sont allouées à des enfants, n'importe quel critère, ils peuvent s'inscrire et c'est une question de concours. Moi, mon fils a gagné, là, je l'ai inscrit l'année passée, il a été éligible, il a été accepté, puis en plus de ça, il était à la même école que mes deux grands garçons, alors j'ai pris la place, mais c'était pas selon ses critères au point de vue de la langue ou du salaire des parents ou quoi que ce soit, il faisait juste partie du concours, il a été accepté. Mais, grosso modo, la nouvelle, ce que je voulais dire, c'est que dans ces fameux programmes, on a découvert que certains États, maintenant, obligent les parents à débourser ou à imposer à leurs enfants de manger à l'école. La fameuse boîte à lunch n'est plus permise dans certains États où les programmes de prématernelle sont offerts. Et je sais que ça, c'est quelque chose qu'on veut implanter à travers tous les États-Unis. Ou est-ce que, à partir de toutes les écoles subventionnées ou tous les programmes subventionnés par le fédéral, on veut imposer les enfants à aller manger la bouffe d'école et la seule chose qui va permettre à une mère ou un père de pouvoir donner une boîte à lunch à ses enfants, c'est s'il a une note du docteur. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai sauté de 6 pieds.
Ben attends, oui, parce que là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est correct, parce que bon, on va s'assurer de la bonne nutrition. » Attendez. Là, ça, c'est le gros côté malheureux des États-Unis. Mm. C'est la raison pour laquelle les gens sont pas en santé ici, c'est qu'ils ont aucune espèce d'idée c'est quoi de la nutrition puis de la bonne nutrition. Et donc, OK, si tu regardes le menu des écoles ici, ça fait peur. Donc,
mais qu'est-ce que tu racontes, ma chère Texane? C'est Michelle Obama qui a fait le dernier programme d'alimentation dans les écoles. C'est supposé être très sain. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas bon.
En tout cas, si tu regardes le menu qu'il y a à l'école de ma fille, OK, c'est pas compliqué. Des pogos, c'est bon ça. Hein? Du maïs là-dedans, bon, c'est bon le maïs. Qu'est-ce qu'il y avait? De la pizza, bon, ça aussi. Puis tu sais, c'est pas de la bonne pizza, là, on s'entend là, que c'est de la pizza, congelée qu'on fait réchauffer. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Des quesadillas, parce que les enfants mangent à l'école pour le déjeuner, parce que, voyons, les parents, je veux dire, ça ne le tente pas de faire de la bouffe à leurs enfants le matin. Donc, ils les envoient à l'école déjeuner. Et là, ils vont manger. Je ne sais pas c'est quoi en français. Pig in a blanket. Tu sais, c'est une genre de saucisse.
Oui, c'est comme un pogo, mais matinal. C'est un peu comme ça, non?
Ben c'est enrobé de pâte. Dans le fond, c'est comme une saucisse enrobée de pâte. Ils appellent ça pig in a blanket. Ou, attention, des beignes.
Ben, oui.
Des beignes pour déjeuner.
Mais écoute... C'est encore une question et je trouve ça le fun qu'on en parle en ce moment parce que notre invité au bout du second segment va sûrement va justement nous parler de la santé et de l'alimentation. Il y a beaucoup de controverses ici parce que justement quand on prend la peine de regarder, et puis je blaguais, là, l'histoire des menus, là, même la nouvelle, le nouveau programme de Michelle Obama, c'est incroyable. Il y a des déficiences incroyables sur certaines choses. C'est comme, tu vas avoir beaucoup de féculents, des patates, des pâtes, c'est quoi les desserts, c'est hyper sucré. Mais d'un autre côté, ils disent, ouais, mais au moins les enfants, ils mangent des petits pois puis ils mangent de la viande. Mais regarde la qualité de la viande, ben, je suis même pas convaincue mon chien voudrait manger ça. Moi, je sais que, regardez, j'ai des enfants qui sont pas du tout difficiles. J'ai des enfants qui, si je leur disais tous les jours, on va manger chez McDo, ils seraient peut-être bien contents au départ parce qu'ils aiment bien McDo, mais je les sensibilise. Fait qu'ils comprennent que McDo, ben, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. C'est les premiers à me dire, maman, je ne veux pas manger à l'école. OK? C'est pas mangeable. C'est vraiment épouvantable. Et moi, ce qui me fascine aussi, c'est de voir comment c'est servi. C'est servi sur un treillis, là. Il n'y a même pas d'assiette. C'est que tu prends ton plateau est une assiette. Fait qu'on fout la bouffe là-dessus, là. Je trouve que déjà, c'est tellement répugnant la façon que tu sers ça. C'est une façon très expéditive. C'est sûr que ça va vite pour le. Pour les gens qui servent et tout ça, mais écoute, ça lève le cœur là. Puis les enfants, souvent, c'est qu'ils vont manger des aliments qui sont bourrés de sucre, bourrés de c'est quoi le corn syrup, le sirop de canne, la fécule,
c'est du sirop de maïs, ouais.
Qui sont bourrés de produits du gras, des matières, des produits artificiels, oui.
Des agents de conservation et tout ça.
Le lait qui est rempli de d'hormones et tout ce que tu veux. Au bout du compte, ben tu sais pas si c'est vraiment nutritif. Et moi, il y a un côté qui m'agace beaucoup, c'est qu'on sait que le gouvernement, souvent, pour avoir une accessibilité au point de vue de la bouffe, payer pas trop cher, travaille souvent avec des grosses corporations pour avoir des prix réduits. Fait que je sais pas quelle compagnie travaille, j'ai pas de nom en tête, mais j'ai une petite idée de qui contribue au budget de l'alimentation dans les écoles américaines. Et je ne crois pas que c'est de l'organique ou des produits naturels qui sont souvent utilisés dans ces établissements-là.
Exact. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que si un enfant mange à l'école, puis prend ses déjeuners puis ses dîners à tous les jours à l'école, après ça, on peut se demander, ben en fait, on se le demande pas, on sait la réponse pourquoi que les Américains sont pas en santé puis qui ont plein de petits problèmes, puis du diabète, puis c'est de pire en pire. On essaie d'améliorer, mais en fait, c'est vraiment, ça fait peur. On fait une petite pause, puis après ça, on va recevoir... Ah, puis je vous le dis pas.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
Vous êtes entrepreneur et vous avez une vision planétaire? Les gens chez eVision Expert vous aideront à vous faire connaître à travers le monde. Gestion de réputation en ligne, référencement, conception et réalisation de sites Internet pour que vous puissiez vous concentrer à ce que vous faites de mieux. eVision Expert, 1-866-623-2532.
on est de retour à Deux filles en liberté. Ma chère Texane, on a un invité. Moi, je me sens zen, là, parce que là, on va parler de choses qui sont positives. Ben, pas positives, mais on va parler de la santé, parler de l'alimentation. Et on a un expert dans le domaine.
Ben oui! On a un expert, en fait, que j'ai eu la chance de rencontrer et que tu as eu la chance de rencontrer. C'est rare, hein, ça?
C'est vrai. La première fois qu'on s'est rencontrés, ben cette personne-là était là. Fait qu'on s'est tous vus.
Ben oui, c'est ça, exactement. Donc, on va parler avec Serge Grégoire qui a un PhD en médecine expérimentale de l'Université de McGill. Donc, c'est un Québécois qui habite à Houston.
Oh, oh!
Chanceux, ben oui, exact. Et il a aussi fait un postdoc à l'Université du Massachusetts, Boston, Massachusetts. Et il est en train, il va sortir un bouquin bientôt aux éditions Berger au Québec. Donc, suivez ça, Serge Grégoire. Et il a aussi un certificat en nutrition clinique. Donc, si on sait, c'est un cerveau. Tu sais, l'exode des cerveaux, là, c'est exactement de ça qu'on parle. Bonjour, Serge.
Bonjour.
Donc, on voulait te parler aujourd'hui de la santé, oui, mais plus particulièrement de ce que tu connais très bien, c'est-à-dire les OGM.
En effet.
Parce que, tu sais, c'est comme... ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Ça fait vraiment longtemps que, dans le fond, j'essaie d'étudier un peu les OGM puis tout ça. T'as fait la même chose que moi, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça t'a vraiment touché et t'es allé prendre les informations. Est-ce que tu es capable de me dire un peu ton processus? Comment t'as fait pour arriver à t'intéresser à ça?
Mais premièrement, mon premier but, c'était vraiment pour ma santé, la santé de ma famille. Je n'étais pas convaincu que les études qui étaient faites sur les OGM, qui étaient vraiment, qui démontraient que c'était vraiment safe, c'était vraiment exact. Donc j'ai fait mes recherches, étant scientifique, bon, c'est ce que je fais. Donc j'ai analysé les publications, j'ai lu et tout, et j'en ai conclu que c'était pas aussi safe qu'on nous disait. Il y avait des dangers reliés à la consommation.
Avant toute chose, Serge, est-ce que tu peux expliquer à notre auditoire, je veux pas prendre les gens pour des imbéciles, mais moi, là, je veux dire, ça fait pas longtemps que j'ai découvert c'était quoi les OGM. Qu'est-ce que c'est des OGM et comment c'est créé ces affaires-là, grosso modo?
Parfait, oui, très bon point. Premièrement, ce sont des organismes qui sont génétiquement modifiés, c'est-à-dire qu'on prend un gène d'un organisme X qu'on introduit dans le génome d'un autre organisme. Souvent, on peut prendre des gènes d'insectes ou de plantes qu'on injecte dans d'autres organismes, de plantes, de poissons même, etc. So, de par mes études et tout, j'ai fait peut-être des centaines d'organismes génétiquement modifiés en recherche. C'est-à-dire qu'on prenait des gènes humains, des gènes de souris qu'on introduisait dans des bactéries, des levures ou des cellules d'insectes et qu'on essayait d'étudier les protéines. Un des mythes que je rencontre beaucoup lorsqu'on parle des OGM, c'est que les scientifiques semblent savoir comment qu'on les fait. Ils semblent savoir que le protocole, comment modifier les gènes. Et si tu parles aux chercheurs, à des chercheurs, ils vont tous vous dire que c'est impossible, on ne connaît vraiment pas la façon dont ça fonctionne. En gros, on injecte, soit par électrocution ou soit par un shotgun, qu'on appelle. On injecte des gènes dans un génome X et on s'attend que le génome prenne le gène. Et c'est vraiment du hasard. Il y a vraiment aucun... C'est vraiment pas scientifique comme procédure, en fait.
Puis, est-ce que tu peux, parce que je sais qu'on est capable de faire plein de trucs, mettons, avec des fruits et des légumes, pour ce qu'on appelle le procédé d'hybride, donc de créer, mettons, une tomate qui va être un peu plus résistante, c'est différent, en fait. C'est pas du tout la même chose.
C'est pas fait la même chose. En effet, l'hybridation, c'est vraiment naturel. Les agriculteurs, les fermiers, ils le font depuis des décennies. C'est-à-dire qu'ils prennent les meilleures plantes, ils les croisent ensemble pour donner de meilleurs croisements, quoi. Et ici, on parle vraiment d'une modification qui est non naturelle, que nous, on décide de faire. Que l'homme décide de prendre un gène X pour donner une nouvelle caractéristique à un nouvel organisme. C'est vraiment non naturel. Pour moi, c'est comme jouer avec la nature. Si la nature ne permet pas d'avoir cette caractéristique-là dans une plante ou un animal, on ne devrait pas le faire.
C'est un peu comme jouer à Dieu, en fait. C'est là, j'amène le côté spirituel de ça, mais pour quelle raison essentiellement ça a été implanté? Pourquoi on a commencé à faire ça?
Mais par mes connaissances, je crois que l'idée d'origine, c'était vraiment pour éliminer la famine, la faim dans le monde, et aider les populations du tiers-monde en Afrique, en Asie, et qui sont déficients en vitamines, etc.
C'était aussi pour aider les agriculteurs qui avaient des problèmes, disons, de peste, d'insectes, puis tout ça, nuisibles. Donc, on était capable d'aller faire, de faire des petits changements pour permettre, mettons, d'avoir du maïs qui sont résistants à tel type d'insectes ou tout ça. Et c'était c'est comme ça que ça s'est propagé énormément parce que oui, contre la faim dans le monde, c'est vrai parce que c'est ce qu'on peut voir. Comment il s'appelle, Bill Gates, qui est très impliqué là-dedans, je crois, d'essayer de couper la faim dans le monde et en Afrique et tout ça. Tous les petits agriculteurs qui ont commencé à planter des graines OGM, c'était dans le but, en fait, de vraiment de couper le temps de l'effort mis à la production de leurs légumes. C'est bien ça?
Très bon point.
Donc, si on voit, bon, ça a été créé pour ça, la raison en arrière, on le sait pas. J'aimerais qu'on revienne sur la grosse compagnie qui est derrière les OGM, c'est-à-dire Monsanto. Monsanto, ça va intéresser les libertariens parce que on nous arrive toujours avec l'histoire que, bon, écoutez, c'est une compagnie privée, donc c'est du capitalisme et y a rien là, c'est juste du capitalisme. Mais c'est pas vrai.
Ben, en fait, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que on pourrait dire ça, c'est une compagnie qui, à la base, avait des fondements capitalistes, mais c'est collé beaucoup sur les gouvernements et même des entités gouvernementales très élevées pour prendre le monopole à travers les États-Unis et graduellement s'expandre à travers le monde. Puis, moi, juste par exemple, ici aux États-Unis, il y a le Congrès qui a passé une loi en janvier qui s'appelle le Monsanto Act, qui a passé en catimini avec plein d'autres affaires, là. Je pense qu'il y avait une question de budget dans le décor, mais ça a passé comme dans le beurre. Et c'est justement, c'était pour donner la liberté ou la possibilité pour Monsanto d'exploiter et de ne jamais avoir à subir de procès ou de se faire taper sur les doigts s'il arrivait quoi que ce soit avec les produits qu'ils offraient aux États-Unis.
Un peu comme les vaccins, donc.
Oui.
Ouais.
Mais pourquoi Monsanto, Serge, selon toi, c'est peut-être pas la meilleure chose? Parce que tu me parlais, là, ça avait l'air d'une bonne chose d'offrir la nourriture aux pauvres, de s'assurer d'assurer aux cultivateurs une meilleure...
Un meilleur rendement
et tout ça. Qu'est-ce qui fait que Monsanto n'est peut-être pas aussi parfait ou aussi bon qu'on croit?
Très bonne question. Je pense que c'est la base, vraiment, les lobbyistes qui ont beaucoup d'argent, donc ils achètent les membres du gouvernement américain. Donc, pour eux, c'est peut-être plus facile d'avoir des passe-droits. Et l'autre raison aussi, c'est que leur technologie est basée sur le Roundup, le glyphosate, le pesticide bien connu. Donc, selon moi, eux, ils nous ont vendu le fait que leur produit va éliminer ou diminuer la consommation de pesticides, va augmenter les rendements des agriculteurs, etc. Et au cours des dernières décennies, on a bien vu que c'était pas le cas. Les rendements ont diminué de 40 à 60 % l'utilisation de pesticides a augmenté de 100, 200, 300 % en bout de ligne, on a des organismes modifiés avec plus de pesticides, avec moins de valeurs nutritionnelles.
Parce que c'est ça, hein, dans le fond, on leur disait, écoutez, si vous allez avoir des légumes qui vont être résistants aux pesticides que vous allez mettre, parce qu'à un moment donné, il y a quand même juste un petit, tu sais, les pesticides qu'on met, je veux dire, ça peut tuer aussi ce que tu veux faire pousser, donc, mettons, ton maïs, ton soya, tout ça. Et donc, là, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a, on a vu apparaître tu sais, des bactéries qui étaient... Pas des bactéries... C'est-tu des bactéries résistantes? Non, on a vu des... Il y a un terme pour ça, je me rappelle plus. C'était des super... Ils disaient des super bugs.
Oui, qui passaient à travers le fameux pesticide, là, qui était capable de contrer le pesticide et...
qui était résistant, exact. C'est ça, qui était résistant dans le fond aux pesticides. Et donc, on avait besoin d'un pesticide encore plus puissant pour ces super bébites-là, là, je sais pas, des bébites résistantes à ça. Donc, tu sais, on a vraiment, comme en contournant la nature, bien, la nature est revenue, puis elle a vraiment essayé de combler le problème. Puis, je lisais même qu'en Inde, il y avait des agriculteurs qui se suicidaient. Je me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'était hallucinant, là.
C'était des centaines, des milliers.
Et c'est dû à quoi? C'est dû parce que, justement, ils étaient comme à la gorge, ils étaient pris à utiliser ces produits-là. Pour quelle raison?
Monsanto les forçait à acheter leurs graines.
OK.
Et le rendement était beaucoup moindre que les graines qu'ils utilisaient avant. Donc, ils s'endettaient. Il y avait des dettes énormes de centaines de milliers de dollars. Donc, ils ne pouvaient plus payer. Et pour eux, la seule façon, c'était vraiment de se suicider.
Ben oui. Et là, moi, je connais beaucoup la situation aux États-Unis. Il y a comme un mouvement qui s'est formé aux États-Unis et à travers le monde. March Against Monsanto. Moi, j'ai participé à deux jusqu'à présent. Il y a un éveil. Je sais qu'il y a des magasins spécialisés où il y a des types d'alimentation qui poussent vraiment à ce qu'on se mette à étiqueter les produits, parce que ça, c'est une autre controverse avec Monsanto, c'est que les produits qui nous sont vendus dans les marchés sont aucunement mentionnés si c'est c'est des OGM ou c'est des produits naturels. La seule chose qu'on peut savoir, c'est les produits organiques. Les produits organiques, eux, n'ont pas d'OGM, fait qu'on est assuré de manger des produits qui sont non contaminés, en parenthèse. Mais quand tu vas faire ton marché, c'est très difficile de savoir qu'est-ce que tu mets dans ta bouche. Qu'est-ce que tu peux faire pour contrer ça, à l'exception de dire, ben je vais carrément me tourner vers l'organique.
Le bio.
Le bio. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu?
Ben moi, ce que je fais de mon bord, c'est que j'évite les aliments qu'elles contiennent. Donc, il y a des cultures, il y a 7 ou 8 cultures qui sont connues, qui sont pas toutes génétiquement modifiées, quoi.
Bon, donc, on peut les nommer, il y a le maïs, il y a le soya, le coton.
Le coton, l'huile de canola, le sucre, la betterave à sucre.
Il y a la papaye, certaines papayes.
Il y a la courge jaune et le zucchini.
Quand tu parles de coton, le coton, ça se mange pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que même les vêtements peuvent apporter... qui sont modifiés.
C'est plus référence à l'huile de coton.
OK.
Du grain de coton.
OK. Transformé en vêtements, est-ce que ça peut amener des... je sais que c'est peut-être pas ton domaine, mais est-ce que ça peut même amener à des conséquences? J'avais entendu des fois qu'il y avait des tissus, quoi que ce soit, qui sont en contact avec la peau, peut amener à des réactions ou...
Tout à fait. J'en ai vu quelques fois dans ma pratique avec des patients qui achetaient des vêtements. Et c'est peut-être parce qu'ils contiennent plus de pesticides ou des produits chimiques, on ne sait pas pourquoi, mais il y a peut-être quelque chose dans ce domaine-là.
Fait que ça va vraiment, mais c'est épouvantable. Quand tu me parles du maïs, le maïs, c'est pas juste le grain qu'on mange. Si tu t'arrêtes, tu regardes sur les 90% peut-être des boîtes, là, les céréales, les aliments qui ont été procédés, là, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui ont été le maïs
transformé,
merci. Le maïs est omniprésent. Alors, es-tu en train de dire que la grande majorité des aliments, maintenant, ils sont inclus des OGM?
Oui. Mais il y a des études qui ont été faites récemment qui démontraient que 60 à 80% des aliments en magasin, en épicerie, contenaient des OGM. Donc, c'est vraiment la grande majorité, quoi.
Wow!
Donc, si tu veux vraiment les éviter, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de retourner une alimentation à base d'aliments naturels. à l'époque de nos grands-parents, par exemple.
OK.
Pas de produits transformés. Ils mangeaient ce qu'ils trouvaient dans leur champ, dans la nature.
Mais ils mangeaient des épis de maïs.
Ouais, mais il y a moyen de le faire organique aussi. Parce que moi, j'ai été capable dernièrement de trouver du maïs. Et j'ai, même à ma visite au Québec cet été, je suis allée au marché Jean-Talon. Non, c'est le marché Atwater. Il y avait une petite dame qui vendait. Elle était toute fière d'afficher OMG, 100 OMG. Elle pouvait pas dire qu'ils étaient bio parce que je pense qu'elle avait pas la certification, mais elle pouvait dire qu'ils n'étaient pas transformés génétiquement. Fait que, puis il y a une différence même au point de vue du goût. Moi, j'ai goûté le maïs qui est transformé et fade. Il y a presque pas de goût. Et un maïs, j'en ai mangé même dernièrement, je suis allée chez Old Food, il y en avait du maïs organique. C'était croustillant, c'était frais. Tu vois une différence au point de vue de la qualité de l'aliment aussi.
C'est drôle que tu parles du maïs parce qu'il y a une étude qui a été faite récemment. Ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont mis un épi de maïs dans une forêt, modifié. Ils ont mis un épi de maïs organique, bio. Et ils ont observé les animaux. Et les animaux allaient vers le maïs bio. Ils n'allaient pas vers le maïs génétiquement modifié. Donc, les animaux eux savent que c'est pas bon pour eux.
Ah, oh, wow!
Donc, c'était assez impressionnant.
Est-ce que tu crois que, parce que je lisais des études là-dessus qui, sur les aliments OGM, est-ce que tu crois que le corps, quand on en consomme, le reconnaît pas à 100%? Est-ce que c'est, puis on pourrait avoir des réactions, disons, allergiques ou pour cette raison-là?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a des études qui démontraient que ça causait des allergies, ce qui est très possible. Et moi, en clinique, ce que j'observais avec mes patients, c'est que parfois, le fait que les patients mangeaient des aliments modifiés était la source du problème, de leur problème digestif, par exemple, ou problème d'essai, constipation, diarrhée. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui étaient faites par des scientifiques, mais je peux voir cliniquement que c'est peut-être le cas. Mais ce qui m'inquiète le plus par rapport à la consommation d'OGM, c'est que ça a été clairement démontré plusieurs fois que les gènes de ces organismes modifiés peuvent être transmis à nos bactéries intestinales. Les gènes qui produisent des pesticides, ça a été retrouvé dans certaines personnes. Donc, la personne produisait des pesticides 24 heures sur 24, jour sur semaine.
Ah, oh, wow!
Donc, ça, c'est des pesticides, mais c'est hautement toxique. Toxique pour les nerfs, la colonne vertébrale, etc. Donc,
et ça, tu me dis que c'est... Ça a été étudié et il y a des études scientifiques prouvant ça.
Une autre étude a été montrée que le gène d'antibiotiques qu'on utilise lorsqu'on fait ces organismes-là est aussi transféré chez l'homme. Donc, il peut causer la résistance aux antibiotiques. C'est une autre raison pourquoi il y a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques.
Ben ça, c'est des études qu'on va mettre sur notre page, hein, Belle, parce que je pense que c'est assez important. Puis, je veux dire, il y a tellement de gens qui vont nous dire « Ah non, ça a jamais été démontré comme quoi c'est pas bien. » Oui, ça l'a été démontré, c'est juste qu'on essaie de nous cacher ces études-là, mais elles existent.
Ben c'est ça, moi, ce que je comprends, c'est que oui, il y a des études qui existent, mais le lobby... C'est ce genre de lobby qui est très puissant et très fort et qui, justement, qui a une collusion avec le gouvernement, a une mainmise et capable de contrôler qu'est-ce qui est projeté. Mais comment, moi, là, je me mets, là, monsieur, madame, tout le monde, qui a une famille, qui travaille, ils ont déjà beaucoup à faire. Comment, et, ils observent ça, ils savent que c'est pas bien, mais comment les motiver ou comment les aider à changer de comportement? Parce que moi, je connais un peu, Serge, tu me parlais de ta vision alimentaire et tout ça. Pour certains, c'est drastique. Julie aussi, elle applique une alimentation qui est stricte par rapport à la moyenne. Moi, je suis en train d'aller dans cette direction-là également. Je suis... moi, j'ai décidé de couper tout ce qui est OGM, mais je veux dire, il y a des petites choses que je vais tricher parce que les enfants, ils sont encore à l'âge où est-ce que des choses, des transitions, c'est pas évident. Mais une personne qui n'a aucune connaissance, qui vient découvrir ça, comment l'inciter ou comment l'inspirer à changer un peu son comportement alimentaire?
Ben, c'est une très, très bonne question et c'est très difficile pour les gens. Avec mes patients, moi, j'y vais vraiment petite dose. Okay. On regarde la situation, ce qu'on mange et ce qui peut contribuer au problème de santé. En gros, on commence vraiment par éliminer les sucres. Tous les produits contiennent des sucres, la plupart du temps, contiennent des produits OGM. Donc, on commence par là et graduellement. Il y a des certifications qui existent qui indiquent que le produit est sans OGM, qui est bio.
Mais quand tu parles du sucre, là, c'est pas juste les bonbons, puis le gros sac là, que mes enfants ils ont là, d'Halloween, là, ça, je pourrais dire, OK, ça, c'est pas bon, puis je pense que chaque parent est capable de concevoir ça, mais par sucre, est-ce que tu inclus également les fruits? Qu'est-ce que tu inclus par sucre? Parce que des fois, tu as le sucre naturel.
Très bonne question. Je fais tout référence aux produits transformés.
OK.
C'est que la betterave à sucre est un organisme génétiquement modifié. Donc, le sucre qu'il utilise, c'est modifié, quoi.
Mais si on voit sucre de canne biologique, donc ça, c'est pas la meilleure chose, mais c'est pas des OGM. Et un des aliments que les gens pensent pas, un qui en contient le plus, puis il en contient pas juste un, c'est la mayo. La mayonnaise, c'est un des aliments où il y a le plus d'OGM parce qu'à l'intérieur, tu as du sucre. Bizarrement, ça goûte pas sucré, mais il y a du sucre. Et c'est souvent fait soit avec de l'huile de canola ou de l'huile de soya.
Mm-hmm. Puis, mais c'est parce que moi, encore une fois, moi, je me suis amusée pendant un bout de temps. Là comme je vous dis, moi, je suis en exploration puis je suis en train de faire des changements dans ma vie. Et maintenant, quand j'ai le temps, je prends la peine de lire les étiquettes. À chaque fois que je peux, là, j'arrête. Puis, écoute, j'essaie vraiment de limiter mes achats au point de vue des produits transformés. Je vais le plus possible vers des produits naturels. Quand j'ai pas le choix, je prends la peine de lire les étiquettes. Mais c'est du chinois, ces étiquettes-là. Puis souvent, tu vas dire, c'est marqué naturel, produit naturel, promis.
Ouais, ouais.
Mais finalement, tu te retournes au bord et tu remarques qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas aussi naturelles qu'on veut le croire.
C'est pas naturel, puis en plus, c'est tellement long à lire. Tu dis, on dirait que c'est un roman. Tu dis, ben voyons. Puis moi, des fois, ça me fait penser, je lisais, tu sais, la pâte Pillsbury, là,
oui,
pour faire des croissants. Puis ça, je lisais la liste des ingrédients, puis je suis là... OK, et où la nourriture là-dedans?
Donc, c'est vrai, mais c'est parce que c'est justement... je pense que un parent ou un individu, on n'est plus dans la phase... Oui, il y a des gens qui mangent mal. Moi, j'ai déjà vu des situations où est-ce que McDonald's, c'était le repas quotidien. Tous les jours, on va chez McDo. J'ai vu des situations de même, mais je pense que en général, et surtout si je me réfère sur la famille québécoise, en général, les gens mangent relativement bien. C'est sûr que c'est plus la même genre d'alimentation nos grands-parents, où est-ce que la mère était à la maison, faisait à manger, passait des heures à papoter et tout ça. C'est plus la même chose, mais moi, je regarde mes copines, mes copains au Québec, ils savent faire la distinction entre, par exemple, un verre de jus d'orange puis un Coke. Mais le verre de jus d'orange, tu sais, il est peut-être pas aussi bon qu'on veut le laisser croire. C'est qu'on nous a donné comme une étiquette qu'il y a tel aliment qui est acceptable, il y a tel type d'aliment qui est plus acceptable. Le bacon, par exemple, puis ça, c'est toi, Serge, qui m'as parlé de ça. En général, quand on nomme bacon, les gens vont dire non, il faut éviter ça, c'est du mauvais gras, le cholestérol et tout ça. Mais c'est biaisé. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui vont dire faut que tu prennes au moins 2 à 3 verres de lait par jour parce que tu as
le calcium,
tu as ci, tu as ça. Mais c'est pas aussi bon que ça, prendre du lait. Je sais, c'est vraiment une transformation.
Il y a beaucoup, beaucoup de mythes qui entourent l'alimentation. C'est énorme. C'est un autre sujet, évidemment. Mais c'est vrai qu'on nous dit depuis des années qu'on devrait manger ci, on devrait manger ça, etc. Donc, c'est comme devenu dans notre vie quotidienne. Ça fait partie de nous. Donc, c'est vrai, c'est difficile à changer notre alimentation. Et c'est ce que j'avertis aussi à mes patients. Tu peux pas se décourager, il faut être patient. Ça prend des années à vraiment changer notre style de vie, notre alimentation. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain.
Ça se fait en étapes. C'est ça que j'ai compris. Okay.
Tu commences par une étape, tu le fais pendant quelques mois. Lorsque c'est bien, c'est confortable avec, tu passes à l'autre étape.
Mm-hmm.
Moi, personnellement, ça m'a pris des années avant de changer ma diète pour avoir une diète plus paléo.
Donc, oui, c'est ça. Toi, tu parles, toi, t'es, c'est vraiment, là, je veux dire, pour le commun des mortels, le régime paléo, je sais pas si tu peux nous expliquer grosso modo c'est quoi, mais c'est vraiment drastique, là. C'est vraiment quelque chose, là. Tu vas donner ça à un enfant ou une personne, tu lui dis...
Extrémiste.
Il y a ce côté-là, mais toi, c'est parce que tu le fais graduellement. Le régime paléo consiste en quoi, essentiellement?
Ben, c'est plus ou moins drastique dans un sens que c'est de manger des aliments qu'on retrouve dans la nature. Pas de processed food, pas de produits laitiers, pas de grains. Donc, ce type d'assiette-là, forcément, t'aide à éviter les organismes génétiquement modifiés.
Mais quand je dis que c'est drastique, c'est parce que maintenant, la société est tellement habituée d'aller chercher la pizza dans le congélateur du IGA ou d'aller chercher, tu sais, je veux dire, les légumes déjà cuits, là, que tu mets juste dans le four micro-ondes pendant 5 secondes ou je sais pas trop combien de temps, à place de prendre des haricots frais puis d'enlever les petits bouts et quoi que ce soit, tu comprends que on a perdu ce côté-là. On a vraiment perdu.
Je pense qu'on a perdu nos priorités. Je pense que les gens préfèrent écouter la télé, passer 3-4 heures devant la télé, cuisiner une demi-heure.
Mais tu vois, ça, je trouve que les Québécois sont beaucoup plus
éduqués,
conscientisés,
oui.
Ouais. Parce que les Américains, moi, j'ai plein d'amis ici, des Américaines qui savent même pas se faire cuire un œuf, là. Ils ont jamais fait ça, le bébé. Non, mais c'est vrai. Là. Pourtant, tu sais, au Québec, tu sais, on est encore, il y a plein de gens que je connais qui vont cuisiner, qui vont faire plein de trucs. Qui
des
vont
soupes,
faire des tartares,
des... Oui, oui.
Exact. La sauce à spaghetti maison. J'avais déjà dit ça à quelqu'un ici, puis elle avait dit ça au voisinage complet. Hey, Julie, elle a fait la sauce à spaghetti maison. Tu sais, c'était là.
From scratch. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça, je vais le donner à la culture, puis je sais pas si on va être capable de garder ça. Moi, j'ai ça de ma mère. Ma mère, j'ai été habituée à toujours avoir une soupe pour chaque repas. Je fais pas des soupes pour chaque repas, mais vraiment un potage, c'est quelque chose que je vais essayer de faire au moins une fois de temps en temps durant la semaine. Puis les enfants adorent ça. Puis c'est une façon de récupérer des légumes que tu n'utiliseras pas pour d'autres choses. Il y a des choses comme ça que c'est peut-être un peu plus évident, tu vois, c'est plus naturel pour les Québécois. Mais moi, je reviens au principe là des aliments transformés, aux OGM. Qu'est-ce qui arrive au Québec? Est-ce que c'est la même problématique qu'ici ou est-ce qu'il y a beaucoup plus d'informations ou il y a encore beaucoup moins d'informations? Moi, je sais que, par exemple, j'ai ma mère qui me disait, il y en a pas au Québec, c'est interdit, Monsanto est interdit. Est-ce que c'est le cas?
À ma connaissance, non. Il y a des OGM aussi au Canada, en Alberta, par exemple, en Manitoba, ce que la culture, c'est aussi présent qu'ici, quoi. La seule chose qu'on n'a pas au Canada, c'est le lait qui a été fait à base d'hormones de croissance bovine. Ça a été interdit.
Ah oui.
Mais ici, aux États-Unis, on l'a. Donc, le problème est le même.
Les OGM, c'est ça, les OGM disparaissent de plus en plus dans d'autres régions du monde, entre autres en Europe, où c'est illégal de les vendre, mais ce n'est pas illégal de les cultiver. Donc, souvent, si on reçoit ici des aliments qui viendraient, mettons, de l'Europe, on pourrait avoir des OGM, parce qu'ils ont le droit de nous les envoyer, ils n'ont juste pas le droit de les vendre
là-bas. OK, fait qu'ils ont le droit de faire pousser des OGM, mais ils n'ont pas le droit de les consommer ou de les vendre à la consommation là-bas. OK.
C'est ça.
Mais, je reviens encore avec l'histoire, est-ce que ces fameuses graines ne contaminent pas la terre? Parce que là, on parle de petites graines qui, de un, ne peuvent être réutilisées. C'est pas comme les graines naturelles, là, comme dans le temps où est-ce que ma grand-mère ou ma mère prenait des graines de citrouille, des graines de peu importe, là, puis ils remettaient ça pour l'année suivante. Tu peux pas faire ça avec les graines Monsanto. Là, tu me parles qu'en Europe, ils sont capables d'utiliser, de planter, mais est-ce que la terre est pas contaminée par la suite?
Je pense que c'est un problème qui va pas se résoudre, parce que tu viens de parler du point qui m'inquiète et que ça se retrouve dans la nature. Et les abeilles, lorsqu'ils pollinisent les fleurs, transfèrent de plante en plante ces organismes-là. créant des problèmes aux abeilles, comme on peut le savoir. Et l'autre problème aussi de ces graines-là, c'est qu'avec la nouvelle technologie qui s'appelle Terminator, il y a un gène qui empêche la graine de se reproduire. Donc, si le gène se retrouve dans la nature, les plantes vont commencer à mourir.
Mm.
Ce qui est catastrophique.
Fait qu'il n'y aurait plus aucune plante qui pourrait se reproduire. C'est fou, là. Comment on ferait pour...
Exact. On se dirige vers ça si on s'arrête pas. Comme la population d'abeilles a diminué drastiquement au cours des dernières années. Sans abeilles, il n'y a plus de plantes.
Il n'y a plus de vie. On ne veut pas être pessimiste. Moi, je veux rester dans mon côté zen, là. Mais c'est vrai que... ça, je dis, comme je disais au début, je pense que des fois, l'humain essaie tellement de ressembler à, de prendre des allures de Dieu qu'ils font des horreurs catastrophiques et les impacts sont, tu sais, c'est seulement, de un, je crois que la nature va toujours rester plus forte que l'humain. Moi, c'est mon... Tu sais, je veux dire, tu parlais de l'insecte tout à l'heure, Julie, qui devient plus résistant. Je pense que la nature, mais d'un côté, si on se met à bousiller... à continuer à bousiller la nature, ça va avoir des impacts très, très, très fâcheux envers l'espèce humaine. La nature, je pense qu'elle va se rétablir, mais le groupe qui va souffrir le plus, c'est vraiment l'espèce humaine dans tout ça.
Excellent point. Il y a plusieurs études qui démontrent que les OGM ou le Roundup, le glyphosate, affectent ou diminuent la reproduction humaine. En fait, si on utilise des hamsters ou des rats ou des souris, après 3 générations de consommation d'OGM, ces animaux-là deviennent stériles.
Non, mon Dieu.
Puis on voit ça chez les humains. Il y a tellement de... Ben oui.
À 30% environ chez les femmes. Donc, même chez les hommes. Donc, il y a quelque chose à s'inquiéter, ça, c'est sûr.
C'est un phénomène qu'on voit, non? C'est pas quelque chose qu'on nous annonce. On le voit déjà présentement dans la population, exactement.
Bon, ben écoutez, on va essayer, nous autres, quand même, de trouver une façon. Moi, je... OK, je veux garder mon côté,
ça fait peur, là.
Non, j'en fais peur, mais souvent, c'est parce que si on montre juste ça, cette grosse image-là, catastrophique, les gens vont avoir tendance à comme dire « Wow, on est trop petit pour faire quoi que ce soit ». Je pense que être capable de faire chacun notre petit travail... Et c'est pour ça que j'aimerais ça par la suite, peut-être qu'on mette le lien de ton entreprise. Tu travailles à Houston, tu travaillais à Boston auparavant, et toi, tu rencontres des clients et tu les guides vers une meilleure façon de se nourrir, de vivre. Alors, je pense que c'est peut-être l'étape première pour chacun, parce que c'est sûr qu'on peut militer chacun de notre bord puis essayer d'informer les gens. Mais avant toute chose, je pense que chacun doit être responsable de son corps et savoir qu'est-ce qu'il met et de trouver le plus d'informations pour reconnaître ce qui est bon et ce qui est pas bon.
Puis une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'en tant que consommateur, on a le pouvoir de changer les choses, donc d'aller chercher des aliments qui sont reconnus comme n'ayant pas d'OGM. Ici, aux États-Unis, on a le GMO Free Project. C'est un projet qui a été commencé vraiment, je pense que sur l'administration, il y a plein de dirigeants d'entreprises, en fond, qui sont, disons, vertes et qui essayent d'offrir des meilleurs aliments, mais on est chanceux parce que maintenant on peut voir là, les OGM ne sont pas étiquetés, mais ce projet-là va étiqueter chacun des aliments, comme des chips ou n'importe quoi, ou que tu peux acheter qui ne contiennent pas d'OGM. Bon, c'est sûr qu'encore là, il y a toujours une question de confiance, mais bon, faut qu'on commence quelque part et d'aller chercher, acheter local, aller voir les agriculteurs directement, leur acheter de la viande, des œufs, du lait, de vraiment faire ça localement, ça peut aider. Et peut-être qu'en faisant ça, si chaque personne le fait, ben on va finir par, dans le fond, faire le libre marché. Et il y a de plus en plus de grosses compagnies qui vont finir par offrir des aliments comme ça sans OGM.
Bon, puis juste avant de conclure, Serge, j'aimerais ça que tu me parles du livre que tu vas publier bientôt. Et c'est à quelle édition déjà? J'aimerais que tu me rappelles. Parle-nous un peu de ton livre, là.
Oui, c'est l'édition Berger au Québec. Ce que je voulais faire, c'est de parler du mythe principal de la nutrition, c'est-à-dire les gras animaux, les gras saturés, le cholestérol. On nous dit depuis 50 ans, 60 ans que c'est mauvais, ça cause des problèmes cardiaques, le cancer, le diabète. Et je voulais seulement mettre les points sur les i, quoi, pour démontrer que c'est pas le cas.
Et c'est là-dessus que tes recherches ont été faites, je pense, à Boston.
Ouais. Alors, on étudiait le métabolisme des gras au niveau cardiaque. Et c'est clair que les gras n'ont aucun effet sur la santé du cœur et sur sur les maladies en général. Au contraire.
Et qu'est-ce qui a un effet?
Ben, l'effet principal, c'est vraiment les gras trans, les huiles végétales et le sucre. Ces aliments-là, c'est clair, causent des problèmes de santé. Quoi.
Et c'est drôle parce que je regarde les tendances, là. Moi, j'ai souvent fait des régimes, là. Puis c'est vraiment des tendances. T'as le fat free ou t'as le, tous les types de régimes, là, qui te sortent, là. C'est tout le temps axé sur une chose où est-ce qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer uniquement sur le gras. Il faut uniquement s'attaquer sur, c'est quoi, là, les pâtes et les patates, les choses, les gluten et tout ça. Mais au bout du compte, toi, ce que tu suggères, c'est juste un retour à une alimentation saine. Même, t'es même pas en train de dire il faut proscrire un tel type d'aliment, là. Si je comprends, tu me parles du sucre, mais les gens, s'ils sont capables d'avoir une alimentation saine, ils n'ont pas besoin non plus virer gluten-free ou virer paléo jusqu'à l'extrême, mais d'avoir une alimentation saine et manger des produits naturels, ça peut les amener à un équilibre. OK. Ben écoute, moi, j'aime beaucoup. Puis Serge, j'aimerais ça. On va essayer de mettre le lien de ton entreprise. T'es à Houston, mais je sais que tu consultes des gens, même que tu consultes mon mari qui n'est pas à Houston, n'est pas à Houston. Alors, tu consultes certaines personnes à l'extérieur de ta périphérie. Je sais que ta business, elle s'en vient pas mal bonne. T'as pas mal de clients. Mais on va mettre le lien parce que peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés à te rencontrer. Je sais que tu fais des séances sur Skype, tu fais des...
Exactement.
Puis, il y a peut-être des gens qui seraient intéressés justement à faire un changement au point de vue de l'alimentation. Ils sont rendus à l'étape de dire, bon, ben je suis consciente que je suis pas en santé. Maintenant, il faut que je me trouve les moyens. Puis ton livre, quand est-ce qu'il va sortir, lui?
Ça devrait être au début de l'année prochaine.
OK. Ben écoute, on va se tenir au courant. On va essayer de se reparler très prochainement.
Ouais, parce que là, il y a d'autres, c'est ça. Parce que là, on a parlé des OGM, mais je sais que tu es très ferré dans d'autres domaines aussi. Puis je pense que ce serait des sujets qui sont très, très intéressants pour les libertariens. Puis d'ici ce temps-là, ben écoutez, allez sur notre page Deux filles en liberté. Puis on va mettre tous les liens de Serge, les études dont il nous a parlé. Puis dès que le livre sort, on va le mettre sur notre page. Puis vous allez pouvoir aller l'acheter. Donc nous, on doit faire une pause et on vous revient tout de suite après. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0. Bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the world. Insane in the membrane. Insane in the world. Insane in the membrane. When you're insane, you're so free. Insane in the membrane. Insane in the world. Do my shit undercover, now it's time for the blubber. Blabber, to watch that belly get fatter. Fat boy on a diet, don't try it. I jack your ass like a looter in a riot.
come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down, head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night who's dead. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make the eye strain. A nigga like me is going insane.
De retour sur deux filles en liberté. C'est drôle parce que quand on a commencé le show, j'avais tout le temps dans l'impression que c'était deux filles le matin. Tu sais, l'émission au Québec, deux filles
à
le
TVA,
matin.
C'est ça, non?
Oui, c'est ça. Puis c'était tout le temps deux filles le matin. Ouais, deux filles en liberté, deux filles. Ah, puis là, je me rappelle pour la première de notre show, j'avais écrit deux. Je m'étais dit, je vais écrire deux filles en liberté en gros, une grosse pancarte en avant de mon écran. Puis, j'avais commencé, j'avais écrit « Deux filles le matin ». Tu sais, j'avais écrit ça sur ma pancarte, juste pour te donner une idée, là, tu sais. Bon, « Deux filles en liberté ». Ben, c'était un invité qui était vraiment intéressant, puis bon, c'est sûr que je le trouve intéressant, je le connais, je veux dire, je le côtoie, donc je
tu es biaisé, tu es biaisé. Non, non, mais sérieusement, non, non. Quand même, c'est parce que... Regarde, moi, ce que j'aime, c'est que il y a le côté, en parenthèse, scientifique derrière lui pour appuyer ce qu'il avance. Il a fait des études, il a même fait les études, il a pas juste lu des études. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de recherches et je lis certaines études, mais lui, il a même été sur le champ, il a été capable de faire, hey, moi, quand il me raconte qu'il a été capable de faire des croisements, je sais pas trop comment tu mentionnes ouais. Ça, mais ça doit être fascinant faire ça, ce côté-là un peu manipulation, c'est le fun. Puis moi, c'est pas réellement ça qui me fait peur. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est quand on met en pratique ce qui était planté, puis là, on le commercialise, et là, on est rendu à un point où est-ce que justement les impacts sont, tu sais, on les voit pas encore au point de vue de la masse. Mais on commence de plus en plus à parler des conséquences de ces manipulations-là. Et là, moi, ça fait peur.
Parce que quand on arrive puis qu'on essaie d'éduquer les gens là-dessus, il y a plusieurs personnes qui vont nous dire, écoutez, faut pas être contre le progrès. Puis moi, je suis tellement pas contre le progrès. Je suis vraiment pour le progrès. C'est juste qu'à un certain moment donné, c'est que je veux que ma qualité de vie reste excellente. Et moi, ça me fait peur. Moi, c'est l'avenir, c'est le futur qui me fait peur. Et là, t'entends, on n'entend presque pas des Serge Grégoire parler mm-hmm. dans les médias puis tout ça, parce qu'il y a comme c'est comme un dogme de dire les OGM, c'est là pour sauver la planète et tout ça. Donc, on n'en entend pas souvent parler. Mais Serge n'est pas la seule personne scientifique du milieu scientifique à me dire la même chose. Et il y en a plein qui essaient d'éduquer, donc ils vont écrire ouais. des livres et tout ça, qui essaient de rejoindre des gens. Ils n'ont pas les médias en arrière d'eux. Et quand tu n'as pas les médias en arrière de toi, c'est extrêmement difficile de pouvoir de parler à la masse.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que je trouve ça le fun de voir certains moyens qui sont appliqués, comme la fameuse marche Monsanto contre Monsanto, en fait. Moi, j'étais à la première, je pense que c'était au mois de février l'année passée. Écoute, c'est un événement qui avait été créé du jour au lendemain. Quelqu'un a dit, tiens, on va faire une marche contre Monsanto. Ça s'est propagé comme un effet de, tu sais, de poudre de canon, là. Et les gens ont participé à travers le monde. Il y a eu des marches. Dernièrement, je pense, il y a deux semaines, il y en a eu une autre aussi. J'étais pas dans la disponible pour participer, mais j'ai entendu qu'il y a eu quand même un bon nombre. Et là, les médias ont commencé à embarquer, commencent à en parler. C'est sûr que c'est comme n'importe quelle nouvelle dite controversée ou quelque chose qui sort de la norme, ça sera pas médiatisé de façon générale. Et il va toujours avoir les grands défendeurs qui vont dire, justement, comme tu racontes, le progrès, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites des personnes qui souffrent de pauvreté, ta. Mais exact. Ils refusent d'entendre l'autre côté de la médaille. Moi, ça, comme je te dis, ça, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, on joue beaucoup avec la nature. Et quand la nature se révolte parce qu'on a abusé, elle revient contre nous encore plus puissante de l'impact que ce qu'on a fait. Fait que moi, j'ai l'impression que si ça continue comme ça, ça risque d'être très catastrophique.
Ben, c'était la même chose. On se rappelle avec les antibiotiques. À un moment donné, on donnait des antibiotiques, même en prévention. Quand on s'est rendu compte que, oups, il y a des maladies qui sont résistantes, donc des bactéries qui vont être résistantes aux antibiotiques. Donc, on a besoin d'antibiotiques encore plus puissants. Puis donc, là, on a vu des fléaux là-dessus. Et là, on a maintenant, les médecins vont prescrire beaucoup moins d'antibiotiques. On va prescrire des antibiotiques plus vraiment en prévention, mais vraiment quand il y a un problème. Et dans le temps, même si on avait des otites, on prescrivait des antibiotiques tout de suite parce qu'on se disait, bon, si c'est un virus, ben ça va partir tout seul. Puis si c'est une bactérie, ben au moins, on va avoir l'antibiotique qui est là. Tandis que là, on se pose vraiment des questions. On va vraiment aller vérifier, est-ce que c'est vraiment un virus? Donc, si c'est un virus, ben on va pas traiter avec des antibiotiques. Donc, il y a vraiment eu ce changement-là qui est venu parce qu'on a vu et identifié un problème. Le problème avec les OGM, c'est la même chose, c'est qu'on commence à voir qu'il y a des problèmes. Des scientifiques commencent à nous dire que dans leur recherche, ils voient des problèmes. Donc, on a vu même des recherches scientifiques par rapport la consommation d'OGM chez les rats et où ils avaient des je sais pas si tu as vu les photos, là, mais des espèces de tumeurs monstrueuses, donc quasiment aussi gros que le rat. Et c'était vraiment relié à la consommation d'OGM. Pourquoi ça on a plus de difficultés à le savoir encore. Serge nous en a parlé. C'est souvent parce que le gène qu'on a transplanté dans l'aliment en soi, ben on peut nous l'absorber en tant qu'organisme parce qu'on est un organisme et on devient un organisme génétiquement modifié.
Hey, ça m'a fait peur quand il a dit ça. ça fait vraiment réfléchir, écoute.
Ben c'est ce qu'on est en train de découvrir. Puis là, on est vraiment rendu. Tu sais, c'est quand même. Je sais pas, ça fait combien d'années que c'est là les OGM. Je pourrais pas te dire vraiment là spécifiquement combien d'années. Mais c'est encore tout nouveau.
Moi, ce qui me fascine aussi, c'est comme une entreprise comme Monsanto qui est maintenant qui œuvre soi-disant dans le domaine de l'alimentation des graines et tout ce que tu veux. Son origine n'était pas du tout axée vers ça. C'était axée vers les produits chimiques ou d'armes chimiques et quoi que ce soit. Durant la guerre du Vietnam, justement, c'est Monsanto qui avait contribué avec l'agent orange. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant de ça, mais c'est durant la guerre du Vietnam, les Américains utilisaient ce produit-là. On appelait ça l'agent orange parce que ça faisait comme une grosse trace orange et ça contaminait les eaux, je crois, et les aliments ou les plantes et tout ça. Et ça faisait en sorte que les gens tombaient malades. Les Viet Cong, ils visaient les camps de Viet Cong, par exemple. Mais là, c'est que c'était des villages entiers qui tombaient malades et il y en avait plusieurs qui décédaient de ces affaires-là. Et ça, c'est l'origine de Monsanto.
Oui, puis ils ont découvert autre chose aussi. Ils ont découvert la saccharine.
Oui!
Tu te souviens de la saccharine. Donc, ce n'est pas interdit aux États-Unis, à ce que je sache, mais ce l'est au Canada. Donc, la saccharine n'est pas légale au Canada, mais c'est...
C'est quoi le nom commercial de la saccharine? C'est pas le Splenda? C'est pas ça? Non, c'est quoi?
Non, ça c'est le sucralose. La saccharine, c'est la saccharine. La saccharine, c'est la saccharine.
Mais il n'y avait pas le nom commercial. Je pense que c'était...
C'est un petit peu avant l'aspartame. Okay. C'est arrivé un petit peu avant l'aspartame. Mais donc, je me rappelle à l'époque, c'était quasiment là, le, le premier sucre
artificiel,
artificiel qui arrivait sur le marché, ça a été retiré, je crois, au Canada. J'étais toute petite à l'époque, mais je crois qu'ici, j'ai déjà vu, je me rappelle, parce que bon, c'est clair que moi, j'en consomme plus, que ce soit sucralose, aspartame et saccharine, mais je me rappelle d'avoir vu ces petits sachets-là au resto, là, tu sais, dans l'espèce de, tu sais, t'as tout le temps les couleurs.
Rose, là, jaune, bleu, voilà, oui,
rose. Oui. C'est ça. Bon, ben, c'était là-dedans. Et ça vient de Mozanto, donc on voit que, et c'est toujours bizarre, hein, parce que quand ils font des recherches comme ça, puis que t'as un aliment qui arrive, si tu regardes l'historique de pourquoi c'est ça a été découvert. C'est toujours, souvent, c'est plus des anecdotes. Donc, c'est arrivé comme un peu.
Ou ça a un lien avec le milieu pharmaceutique aussi. Souvent, c'est.
Ben, ouais, mais on cherche quelque chose en particulier. Comme dans le cas du sucralose, je me rappelle d'avoir lu là-dessus que c'était, en fait, ce qu'on essayait de trouver, c'était un insecticide qui était efficace. Et on s'est dit, si on change les molécules du sucre, parce qu'on sait que les insectes, il y a plusieurs insectes qui sont attirés vers le sucre. Donc, si on change les molécules du sucre, ben en fait, on les remplace par des molécules qui tueraient les insectes. Ben on aurait l'effet sucré qui attirerait les insectes et on pourrait les tuer comme ça. Et c'est comme ça qu'on a découvert le sucralose, parce qu'on a remplacé des molécules de sucre par des molécules de chlore.
Oh mon Dieu. Mais le principe, là, je parle pas c'est exactement, mais c'est pas le même principe quand on parle des produits comme l'aspartame, tous les autres produits de sucre dérivés, là, c'est pas des sucres artificiels, c'est pas dans la même pensée?
Ben, c'est pas le produit chimique n'est vraiment pas la même chose, mais c'est tous découvert. C'est pas ce qu'on cherchait, mais c'est comme arrivé comme ça. Puis bon, dans le cas du sucralose, on s'est rendu compte que les bébites, finalement, les insectes n'étaient pas attirés par ça, même parce que même si ça goûtait sucré, ils sentaient ou
ils étaient assez intelligents pour faire la distinction entre ça et le vrai sucre. Ça veut tout
exactement
dire.
Exactement, ce que nous, c'est ça. Ce que nous, en fait, on n'est pas capable de faire. On a perdu cet instinct-là. Tu vois, et on a commercialisé, et au départ, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une espèce de le sucralose. Bon, il y avait un brevet qui avait été donné, donc il n'y a aucune compagnie qui avait le droit de copier, et c'était que du Splenda, donc il devait écrire Splenda partout. Et quand c'est arrivé sur quand le brevet est arrivé à échéance, il y a tellement de compagnies qui se sont mis à faire du sucralose, là, le nom, le sucralose. Et là, on sait que, bon, c'est peut-être pas très, très bien parce que ça peut amener des réactions chez certaines personnes, des grosses diarrhées. Et le but de ça, c'est que le corps ne reconnaît pas le sucralose comme étant...
Une matière quelconque.
Ben, un aliment. Donc, il serait supposé... Il ne devrait pas être absorbé par l'organisme, donc on devrait tout le rejeter dans la toilette. Mais en faisant des tests, on s'est rendu compte que non, certaines personnes peuvent l'absorber, et là, ça peut causer des problèmes. Et c'est encore en train de... Il y a plusieurs personnes qui vont encore consommer du sucralose sans savoir que c'est très nocif pour la santé et qu'il y a plein d'études qui vont prouver ceci. Et il y a, en fait, pour le moment, le seul sucre alternatif qui serait bon, il y en a plein d'autres qui sont à l'essai, mais qu'il n'y a pas vraiment d'études reliées à ça, c'est la
stevia. Oui. Mm-hmm.
Mais encore là, la stevia, pour les gens qui la connaissent, donc c'est une plante qui est sucrée. Donc si vous prenez la stevia, c'est vraiment une plante là, verte, puis que si vous la mangez, vous mangez la feuille est sucrée. Mais pour en faire un sucre, il faut que ça soit transformé. Et là, c'est là, moi, mon petit... Parce qu'on doit mélanger avec d'autres trucs. Puis souvent, on va mélanger avec des trucs qui ne sont pas très, très recommandables. Donc, tu n'as même pas, en achetant du stevia...
La certitude. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'avais lu que c'était la transformation qui était plus ou moins safe, qui était plus ou moins sécure et qui faisait en sorte que ça pouvait altérer, disons, la qualité du produit.
Fait que l'option, c'est un peu comme soit aller avec modération. Je sais que nous, on essaie vraiment on s'est tourné vers le sud de Cannes, organique ou c'est quoi, c'est biologique. Ou on essaie vraiment d'aller chercher des matières biologiques. Et l'alternative, notre but ultime, c'est de couper vraiment dans le sucre. C'est de vraiment trouver des alternatives qui changent notre goût. Puis c'est vrai qu'on est, en tant qu'humain, là, surtout la génération dans laquelle on est, là, on est des vraies bébites à sucre. Là. Puis,
ben, on était l'être humain, puis même les animaux, naturellement attirés vers les gras et mm-hmm. le sucre. Donc, une crème glacée, pour nous, ça a l'effet d'un orgasme.
Oui, non.
Gustatif.
Ben, le chocolat et tout ça, il y en a plusieurs qui seraient prêtes à faire des concessions et dire, bon, ben moi, tu me demandes n'importe quoi sauf mon chocolat, ils vont le faire. Là, je veux dire, c'est vrai que c'est comme une forme de drogue. Puis,
c'est une drogue. On a reconnu que le sucre était une addiction aussi grande que... Les drogues, là, vraiment.
Des grosses drogues,
oui, exactement.
Des drogues dures.
Donc, c'est vraiment vrai, exact. Et on a l'effet est peut-être moindre, mais pour chez certaines personnes, tu as des enfants qui sont très, qui vont devenir quasiment fous après avoir pris du sucre. C'est le cas de mes enfants. Il y a vraiment une différence, le avant et le après le sucre. Puis pour des gens qui prennent pas beaucoup de sucre, donc comme moi, si je prends du sucre, je sens les effets là, c'est instantané.
Et la problématique surtout, c'est le fait que maintenant il y a du sucre partout. Je veux dire, à moins dans les légumes. Ça, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut inclure les fruits? Je pense que ça, c'est du sucre naturel, c'est pas mauvais en soi, mais tout ce qui est produit transformé. Même dans les moutardes, dans des matières qu'on pourrait même pas penser, on se dit, voyons donc, il n'y a pas de sucre là-dedans, tu regardes, il y a toujours une forme de sucre, et c'est le pire des sucres qui est utilisé, je dis toujours le terme anglophone, high fructose corn syrup, c'est le sucre de maïs, c'est ça? C'est le sirop de maïs, c'est un des pires, en fait, là, et la raison pourquoi cet élément est là, c'est qu'il coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que des sucres naturels en tant que tels. Je sais que nous, c'est ça aussi, on est en train de transformer, mais moi, je m'amusais, là, je veux dire, quand je te dis j'y vais par étapes, c'est l'une des premières choses, c'est que j'ai vraiment essayé de retirer de mon garde-manger, de mon frigidaire, tout ce qui était le sucre de maïs. Et je t'avouerais que quand j'avais fait mon ménage, là, la première fois, je disais, bon, on fait ça, là. Le trois quarts de mon frigidaire, j'ai dû le vider, là. Tu sais, puis j'ai dit, bon, ben, regarde, on va pas jeter trois quarts, là. On va le consommer, mais une fois que c'est fini, là. Mais je te jure, c'est inconsciemment, même quand tu vois des marques d'aliments que c'est marqué, ça donne l'image que c'est santé, les barres santé, les ci, les ça. Si tu ne prends pas la peine de regarder l'étiquette, tu peux facilement te faire berner, là. C'est très, très, très facile.
Oui, exactement. Puis même moi, je me fais encore prendre. Mais si on ramène, parce que bon, le but du show, c'est de ramener ça sur le côté libertarien. Puis j'essaie de faire le parallèle de tout ce que je dis en relation avec les libertariens et de dire comment on fait en tant que... Bon, société, disons, pour ne pas avoir besoin du gouvernement pour réglementer toutes ces compagnies-là qui pourraient nous offrir de la cochonnerie.
C'est une bonne question parce que, regarde, encore une fois, dans le cas précis, moi, je regarde juste comme Monsanto, là, je parlais... au segment ultérieur, là, je parlais de l'acte ou de la loi qui a passé au point de vue fédéral qui protège ces entreprises-là. Il y a tellement une collusion maintenant entre ces méga entreprises-là et le gouvernement. Je sais pas comment, à part, c'est comme les groupes comme March Against Monsanto, peut-être qu'eux ont un pouvoir. Mais de vraiment dire on peut transformer ça comme ça, je pense que ça va être un à longue haleine. Ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on y parvienne. Je sais, par exemple, par contre, la mode, entre parenthèses, OMG, sans OMG ou quoi que ce soit, elle commence à prendre en ce moment. Par exemple, les Target ici ont annoncé qu'en 2014 ou en 2015, ils vont avoir un secteur ou une partie de leur du côté alimentaire qui va être uniquement axé sur des produits qui ne contiennent pas de OGM. Je sais que Whole Foods a eu la même pression, que d'ici 2016, tous les produits qui vont être en magasin vont être soit étiquetés ou ils vont être garantis de ne pas avoir de produits OGM. Alors, c'est peut-être là la bataille qu'on peut gagner là, par rapport à la bataille. Mais s'attaquer au point de vue...
Et la raison, mm-hmm. la raison principale que Target et Whole Foods ont décidé de changer, c'est le consommateur c'est qui le demande. Donc, si le consommateur met son pied à terre, dit « Non, moi, je refuse de manger ça, je refuse ci », ben écoute, ils n'auront pas de choix, ils vont changer. Walmart l'avait fait dans le temps, pas avec les OGM, mais d'offrir des produits bio. Et donc, ils étaient capables d'aller chercher des produits bio vraiment à moindre coût. Et c'est le cas ici. Donc, je suis capable d'aller acheter des fruits, des légumes bio chez Walmart, ce qui est quand même assez bizarre, mais bon. Donc, le consommateur l'a demandé et ils ont juste, en fait, répondu à cet appel-là.
Il y a les puristes qui vont dire, oui, mais ces gens-là font ça par opportunisme. Ils sont là. Non, c'est ça, parce que moi, j'ai eu dernièrement une note me disant, tel produit, vous devriez boycotter ça, même si c'est des produits organiques, versus tel produit, vous devriez les consommer. Puis leur vision, c'était ces gens-là qui offrent des produits organiques travaillent en parallèle ou offrent quand même des produits qui sont OMG, là. Mais, tu sais, je veux dire, il faut être capable d'avoir une vie. C'est sûr qu'à un certain point, si tu as deux produits pareils, puis tu les connais, puis tu sais qu'il y en a un qui offre un produit biologique et l'autre... la même compagnie offre un produit non biologique avec OMG, puis tu as un produit qui offre seulement des produits biologiques. Peut-être que j'irai vers le deuxième, je sais pas si tu comprends, mais faut pas être plus faut pas non plus virer vers le côté un peu fanatique.
Non, puis ça là, moi, du fait qu'on me dise ah oh, ben là c'est juste pour le profit qu'on fait ça, ben, je m'en fous. C'est le but de l'entreprise. Le but de l'entreprise, c'est de faire du profit. C'est le but de faire de la charité, c'est les organisations à but non lucratif et charitable. C'est très 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 différent. Le but de l'entreprise privée, c'est de faire du profit. Puis pour faire du profit, ils ont besoin de consommateurs. Donc, qu'ils fassent pour n'importe quelle raison,
parce qu'au bout du compte, c'est ça, c'est plus tu mets l'importance sur ce produit-là, plus la compagnie va peut-être dire, ben finalement, regarde, je vais orienter vraiment ma gamme de produits vers telle orientation. Je sais pas si tu comprends, même si à la base, n'avait pas le côté... idéal ou ça, ils n'étaient pas arrivés avec l'idée en nous autres, on est pro, on est contre les OMG, puis c'est plus le côté un peu lucratif qui les a amenés à aller dans cette direction-là. Peut-être qu'ils vont changer leur fusil d'épaule, puis ils vont commencer à avoir les bienfaits de vendre tel produit.
Exact. Puis tu sais, il y a une affaire, c'est que les gens pensent toujours que des réglementations, ça va changer quelque chose. Des réglementations, ça change absolument rien parce qu'en fait, ton produit que tu offres, mettons qu'il est sans OGM, on dit, bon, moi, j'offre des biscuits sans OGM. La compagnie qui le dit, elle a des consommateurs et elle a aussi des compétiteurs. Oui. Les compétiteurs vont s'assurer que ce que cette compagnie le dit, c'est vrai. Donc, si le compétiteur, parce que le compétiteur, lui, il voudrait, en fait, que ce soit un mensonge, et il va aller tester, il va tout faire pour essayer de trouver des bébites à cette compagnie-là. Donc, tes compétiteurs sont là pour s'assurer de ta qualité, et tes consommateurs, ben eux, ils vont écouter ça, ils vont voir ce qui se fait, puis ils vont décider oui ou non s'ils vont acheter là ou s'ils vont acheter chez le voisin. Donc, je ne vois absolument aucun problème quand ton capitalisme, il est pur et il est sain. Quand tu mets de la réglementation, des lois, puis tout ça, C'est là que tu arrives avec des problèmes.
Ils vont essayer de contourner, de trouver une façon soit d'acheter le gouvernement ou d'acheter l'entité qui va émettre ces lois-là, ou encore...
Ben c'est ça. Les grosses compagnies, eux, sont capables, ils peuvent aller faire du lobbying, donc sont assez riches pour le faire. Et les petites compagnies qui voudraient bien être un compétiteur, ils peuvent pas parce que la réglementation... Elle est trop compliquée, oui. Donc c'est difficile d'être certifié puis d'aller chercher un permis pour ci, un permis pour ça. Donc il y a juste les grosses compagnies qui vont être capables de le faire. Puis ces grosses compagnies là, ben ils couchent avec
parce
le gouvernement.
Mais tu me parles de ça parce que moi je pense juste aux produits biologiques que j'appelle organiques parce qu'ici c'est de même qu'on appelle ça. Ils doivent tous avoir à passer une batterie de tests puis d'évaluation et tout ça pour avoir le fameux sceau. Mais très souvent, c'est que tu as des compagnies qui, elles, puis souvent, c'est des locaux. Moi, quand je vais faire mon marché, là, puis je vais chercher des légumes, je demande toujours si c'est des produits, des légumes biologiques ou non. Très souvent, ils vont dire, oui, je vais être honnête avec vous. Puis ils vont me... Tu sais, tu as une question de confiance aussi. Tu parles avec la personne... Oui. Puis, c'est sûr qu'il y en a peut-être un ou deux qui vont essayer de t'avoir, puis dire, oh, oui, c'est biologique, puis finalement, ça ne l'est pas. Tu peux te faire avoir, mais il y a une question de relation avec le producteur et le consommateur. Et si la personne dit, oui, j'utilise des graines organiques ou je n'utilise pas les graines Monsanto, quoi que ce soit, mais je n'ai pas la possibilité d'avoir l'étiquette parce que ça me coûte une fortune. Il y a beaucoup, beaucoup de petites entreprises qui sont dans cette situation-là et qui se battent pour être reconnues quand même comme étant des aliments naturels et non transformés. Mais ça, encore, c'est la bureaucratie, c'est les lobbies qui appliquent, puis c'est les grosses compagnies qui arrivent avec leur argent puis qui sont capables de s'imposer. Fait que...
Exact. Donc, moi, je crois, puis en fait, dans cette lutte-là, pour avoir le sceau, comme quoi c'est biologique, comme tu dis, c'est une question bureaucratique, c'est seulement que de la paperasse, donc tu dois décrire ton mode d'agriculture et tout ça. Je pense qu'ils vont aller vérifier une fois, mais ensuite de ça, ben c'est comme, ils peuvent pas aller vérifier tout le monde tout le temps, ça coûterait trop cher. Donc, t'es comme encore là, faut que tu aies une certaine confiance. Là où c'est bien, c'est que ta compétition encore là, s'assure que tu fais ton travail parce que la compétition, elle va tester ton produit. La compétition, elle est là pour vraiment s'assurer que ce que tu dis à tes consommateurs, c'est la vérité. Et on n'a pas besoin de réglementation dans ce cas-là parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Il faut juste laisser aller la nature. Puis oui, il va y en avoir des faillites. Et oui, il y en a des entreprises qui seront pas capables
et
de se
relever.
Et
oui, il va y avoir des gens qui vont essayer de t'en faire passer une. Comme n'importe quelle personne, entité ou quoi que ce soit, t'as toujours une espèce de... T'as toujours le meilleur et le pire, mais la nature va faire en sorte que ça va peut-être s'effacer par elle-même. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'on met beaucoup de pression, puis ça, c'est un des aspects qui est un petit peu différent de la vision libertarienne, la fameuse March Against Monsanto. Aux autres, c'est tu te ramasses avec une panoplie d'individus, puis t'as beaucoup de gens qui sont pro-État, qui veulent légiférer, qui veulent... Et là, tu les écoutes parler. L'autre fois, j'avais une pétition, quelqu'un me disait, il faut que le gouvernement s'implique, il faut aussi... Puis j'avais l'air...
Il s'implique très... Il est très, 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 très impliqué là-dedans.
Puis je lui expliquais justement à cette dame-là, puis j'essayais juste de comprendre, je dis, comment on peut demander à un gouvernement qui couche déjà avec cette entreprise-là? Oui, mais on peut s'arranger pour que ceux qui ont fait passer ça, on les rejette, puis qu'on mette des nouveaux politiciens qui... Là, c'était très idéologique, puis très perfect... la personne voyait, là, c'était quasiment le paradis sur Terre. Mais je lui dis, le gouvernement va toujours être croche. Plus le gouvernement est gros, plus il va avoir des tendances à aller vers la corruption, des situations. Puis on avait un accrochage. On était toutes les deux contre la même cause, contre le même produit, mais
des solutions différentes.
Et pour elle, c'était inconcevable que on ne puisse pas impliquer le gouvernement. Puis c'est ça que là, en ce moment, il y a comme une bataille. Tu sais, quand souvent, il y a dit, ouais, mais Monsanto, ceux qui sont contre Monsanto, c'est tous des gauchistes. Non, c'est pas vrai.
Non, c'est vrai que... OK, écoute, si on regarde, mettons, pour Monsanto, les gens qui sont plus de gauche, donc, eux veulent une intervention du gouvernement, ils veulent que le gouvernement intervienne avec des lois, puis tout ça. De l'autre côté, t'as la droite, la pure droite, qui va dire, ben en fait, on doit laisser Monsanto faire ce qu'il fait, c'est le progrès. Ouais. OK? C'est vrai, et c'est du capitalisme. Et on le sait très bien que c'est pas le capitalisme. Mais là, t'as le libertarien qui commente les deux, qui dit, non, on voit qu'il y a un problème. Le problème de Monsanto, c'est que non, c'est pas c'est du capitalisme, c'est du corporatisme. Ouais. Et c'est mauvais.
C'est la collusion entre les deux. Puis c'est pour ça, souvent, ça c'est un autre aspect, là, on est en train de dévier, mais c'est un lien direct. Souvent, chaque débat que nous avons, tu vas amener n'importe quel débat, puis on n'a pas beaucoup de temps, mais l'histoire de l'euthanasie, par exemple. Au Québec, on est en train de passer un projet de loi. La mouvance libertarienne ne va jamais légiférer, mais va jamais s'opposer à un choix personnel. Un individu qui décide de prendre un choix et de mettre un terme à sa vie parce qu'elle en a marre, je pense qu'à quelque part, c'est son choix. Mais la méthode qu'on applique, c'est impliquer le gouvernement pour légiférer cet acte, c'est là que le trois quarts des libertariens vont dire non, on veut rien savoir. La droite plus interventionniste, il y en a qui vont appeler ça la droite sociale, elle va s'opposer à cette action, à l'euthanasie, parce qu'ils vont dire c'est inhumain, c'est immoral ou quoi que ce soit.
Immoral.
Et vois-tu, ce que j'aime à part avec la mouvance libertarienne, c'est comme si elle était un peu dans le milieu. Puis je dis pas qu'on est décentriste, on n'est pas du tout décentriste, mais on prend une cause, on est dans le milieu de la cause et on prend chacun des points et on est capable de, en se basant sur les principes de liberté, de responsabilité individuelle, d'évaluer la situation puis de dire non, je suis désolée, mais tel point on va prendre la, puis je dis la position va dans telle direction dans tel cas, quoi que ce soit. La même chose avec la fameuse charte des droits et libertés. Il y en a en ce moment qui disent qu'on est en train, parce que beaucoup de libertariens qui sont contre la charte, ah ben là vous êtes du côté
c'est ça, on est contre le principe de l'intervention du gouvernement, on identifie les mêmes problèmes.
Et ça revient toujours à dire, si la solution vient de l'État, vient du système, ben il y a un problème. Peu importe la problématique, peu importe...
Parce qu'en général, c'est le gouvernement qui a créé cette problématique-là.
Puis c'est pour ça. Puis l'autre chose que je vois souvent chez les libertariens, c'est qu'eux, ils ont une grande facilité d'aller chercher la source du problème. Et ça, souvent, les gens, même si elle est évidente, cette source-là, les gens refusent la voir parce qu'elle fait mal, des fois, à voir. Tu sais, des fois, il faut que tu te remettes en question puis tu te dises, whoop, on était dans une mauvaise direction puis on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Il y en a plusieurs qui préfèrent juste dire, tiens, on va mettre un sparadrap, on va mettre quelque chose pour colmater. Puis, c'est pour ça qu'il y a comme une déchirure. Des fois, là, c'est quand on parle souvent de la droite libertarienne. Des fois, la droite libertarienne peut avoir des idées de gauche. Entre parenthèses. Puis, dans le sens...
Ben, des idées, non, mais non, on identifie. Au point de vue social. On identifie des problèmes de la gauche.
Au point de vue social, regarde, l'avortement libertarien, techniquement, ne prend pas position. Chaque individu prend une position. Mais la mouvance libertarienne va toujours dire, chaque individu a droit de prendre la décision en autant qu'elle assume les conséquences de ses actions. Tu comprends? Je pense...
Puis en tant que société, là on parle d'avortement, là, on dévie, mais on a un code pénal, donc on sait qu'est-ce qui est criminel, qu'est-ce qui n'est pas criminel, et en tant que société, ce qu'on a décidé qui était criminel, bon, c'était de tuer un enfant après un fœtus après telle semaine. Et donc... Et c'est là, dans le fond, la ligne qui est
libertarienne. Il y a ça, mais il y a aussi le choix de l'individu. C'est ça, ça revient toujours avec le choix de l'individu et la responsabilité de l'individu. C'est toujours ce côté qui est comme sacré, qui fait en sorte, qui détermine souvent, tu amènes n'importe quel problème social et tu vas être capable de dire, ben regarde, au point de vue personnel, c'est quoi l'idéal? Qu'on parle de l'euthanasie, qu'on parle de l'avortement, qu'on parle de la consommation de drogue, qu'on parle de Monsanto ou de ce qu'on met dans notre... Tu sais, toutes ces problématiques-là qu'on fait face en ce moment dans notre société, ça exclut l'intervention de l'État.
Exact. Mais je voulais faire une petite annonce. On est à la recherche d'un gourou.
Un gourou.
Ben oui, pour notre secte, les libertariens.
Ben, regarde, t'en es une belle prêtresse, toi, là. Tu pourrais commencer à faire ça, puis à charger. Justement, en parlant de gourou, j'ai la cousine à mon conjoint qui était à la Nouvelle-Orléans. Ben, on était là, nous autres, on allait la voir, mais elle est allée voir, justement, une gourou. Et... une voudou, elle n'est pas un gourou, mais une voudou, je sais pas comment t'appelles ça, là, mais t'es allée voir ça, puis elle s'est fait consulter, puis c'est vraiment authentique. Oui, moi, comme ça, tu veux un gourou, tu veux un...
Je veux un gourou pour notre secte, parce qu'on est des libertariens, c'est une secte, parce que c'est ce que j'ai appris, mais parce qu'on n'avait pas de gourou, alors je me suis
on
dit
on va
que,
mettre une petite annonce.
Ben, écoutez, envoyez vos CV, donc c'est ça, donc sur la page Les libertariens, deux filles en liberté, on prend les CV, donc
hey, ça serait le fun,
envoyez-nous ça.
Avec, puis on va s'occuper de votre marketing, là, puis tout ça, on va mettre ça en...
On va mettre ça en
profusion, là, notre nouveau gourou libertarien. Peut-être qu'aux prochaines élections, on pourrait même avoir l'avoir comme représentant. Ça, j'aimerais.
Ouais. Ouais, puis aussi, on prend les cotisations, hein, parce que vous pouvez envoyer des dons.
Hey, là, ça va finir mal, là. Qu'est-ce que tu as avant? Regarde, on va commencer par le gourou. Et on va vous laisser avec en cette belle journée des morts. Parce qu'on est le vent. Est-ce qu'on appelle ça la Toussaint? Autant, j'ai perdu. Écoute, moi, là, je suis perdue, mais je sais que c'est le 1er novembre, c'est la fête des morts. Alors, on va porter hommage à toutes les personnes qu'on connaît qui sont rendues à un autre endroit, au-delà, ou peu importe, là, tous ceux qui veulent croire ce qu'ils veulent croire. Mais on va se laisser sur ce. Et on va se reparler la semaine prochaine. We'll be right back.